peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément avec la complicité de Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
De Karine.
Bonjour.
Et de Jean-Claude.
Bonjour.
Et c'est tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors les trois mousquetaires en selle pour 25 minutes ?
Absolument.
Toujours prêt. Prêt si parat, c'est la devise des comptes de Toulouse, qui s'applique bien à l'équitation.
Pour commencer, on va prendre cette fois-ci le mot homo. Tiens, voilà, drôle de chose.
D'actualité, alors.
Voilà. Et alors, ça va te faire plaisir, Jean-Yves, parce qu'aujourd'hui, ça sera l'adjectif empirique. Alors, dans ton esprit, Jean-Yves, et tu le dis souvent, oui, monter à cheval de façon empirique n'est certainement pas la méthode que tu conseilles. Alors, en
pas
deux
du
mots,
tout, c'est
pourquoi
le dressage. Nous avons les moyens de vous faire marcher. Et ça, c'est pas très très bon pour le cheval. Par contre, quand on y aurait la récompense et sa passion, c'est différent.
Alors, empirique apparaît en français vers le début du XIVe siècle par le biais du latin, hein, et dans le sens de médecine empirique. Ouh là là. Alors, le mot latin est lui-même forgé sur le verbe grec empereo, c'est-à-dire avoir de l'expérience, la connaissance de quelque chose. Également de quelques variantes, toujours du grec, qui signifie à la fois le talent et l'habileté, qui sont les fruits de l'expérience. Donc, on a toujours talent, expérience. Et puis enfin, toujours en grec, le verbe empéraomai, qui signifie tenter, essayer, et l'adverbe qui découle de ce verbe grec, qui désigne une personne instruite par l'expérience. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, empirisme sera repris dans le langage philosophique pour désigner ce qui a trait à une expérience personnelle, souvent inexplicable pour celui qui la réalise, en opposition évidemment avec une démarche rationnelle.
Mais je voyais quelque chose de beaucoup plus violent et beaucoup plus fort dans le mot empirique.
Alors, une sorte de perspicacité, oui, mais là, peut-être qu'on va trouver quelque chose de fort, lié à l'expérience, comme le dit bien le mot vista, par exemple, que tu connais bien, que les toreros utilisent pour anticiper l'enchaînement d'actes réflexes, quasi instinctifs, qui accompliront devant le taureau avant même que ce dernier ait déclenché sa charge. C'est vraiment la vista,
on la le vista, dit, hein, le voilà. Biais, on dit en patois aussi également.
Comment tu dis ?
L'oubiaïs.
L'oubiaïs, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en une fraction de seconde,
c'est
on a tout
français,
compris.
Ça,
voilà.
Aussi.
Alors bon, tout cela paraît assez rassurant, et pourtant, si empirisme signifie une expérience qui permet d'aller de l'avant avec maîtrise et habileté, malgré d'inévitables tâtonnements, sens que l'on retrouve dans le mot expert, qui vient d'empirisme, ou encore dans le mot port, avec l'expression arriver à bon port, le port où les bateaux viennent accoster, il est également à l'origine du mot péril. Donc, empirisme, ça veut dire plein de trucs. Autrement dit, pour en revenir au cheval et à l'art de le monter, l'équitation empirique serait une équitation habile, parfois un peu tâtonnante et souvent dangereuse. Hein, si on met tout ça dans le même bol. Franchement, c'est pas la meilleure façon d'aborder le problème. Hein, bon. Eh bien, justement, à propos d'aborder, verbe marin s'il en est, c'est selon des calculs empiriques que Christophe Colomb partit chevaucher les vagues de l'Atlantique pour, pensait-il, rallier la Chine. Et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il découvre l'Amérique. Hein. C'était il y a 5 siècles, en 1492, un projet fou, périlleux, incertain, donc par définition empirique, mais un pari réussi qui eut pour conséquence de changer en profondeur le cours de l'histoire mondiale.
Et ça a été le début du cheval en Amérique.
Et ça a été absolument le début, le second début du cheval en Amérique, parce que il y a très très longtemps, il y avait des chevaux en Amérique, mais qui ressemblaient, qui étaient des espèces de poney, enfin des espèces de petites bestioles, voilà. Mais effectivement, bon, le cheval en Amérique, tu as tout à fait raison. Et toutes les races de cheval, hein, que ça soit le criollo d'Amérique du Sud, argentin, ou le mustang des grandes plaines nord-américaines, voire canadiennes, c'est effectivement les chevaux barbes qui ont été amenés par les
conquistadors,
par les Espagnols et les Portugais. N'oublions pas les Portugais.
J'ai beaucoup aimé toute la métaphore que tu viens de faire là, hein, pour arriver jusqu'à Christophe Colomb, là, tout ça, c'est magnifique. Très beau. Ah. Voilà, non, mais je me permets de faire une parenthèse. Hein. Voilà, j'ai pas eu le temps de la placer parce que tu étais avec Jean-Yves en pleine discussion très intéressante, donc j'ai pas voulu vous couper. En tous les cas, je trouve que cette métaphore que tu viens de faire, je la trouve magnifique.
Devant tous ces conseils, Jean-Claude, je m'émerveille. Si, comme tu le dis souvent, Jean-Yves, l'équitation ne se pratique pas dans les livres, mais sur une selle, il n'en demeure pas moins que la plupart des grands écuyers ont écrit des traités sur ce qu'ils considéraient comme la belle et bonne façon de monter à cheval. Et tu viens toi-même de copublier avec Virginie Bauer un ouvrage qui est paru chez Actes Sud et qui s'appelle « L'éducation du cheval dans la joie », ouvrage préfacé par le général Pierre Durand, que tu connais bien, qui est ancien écuyer en chef du cadre noir et ancien directeur de l'École nationale d'équitation de Saumur, ainsi que par l'un des spécialistes les plus talentueux de voltige et qu'est-ce qu'il soit. Hein, c'est, nos auditeurs ont bien évidemment reconnu, qui ça Jean-Yves ?
Mario Luracci, bien sûr.
Mario Luracci, bien sûr. Alors, pour les cavaliers, qu'ils soient professionnels, simples pratiquants, amateurs, mais également pour tous ceux qui s'intéressent au cheval et à l'art de le monter, la lecture des traités équestres reste une source essentielle pour élargir leur horizon, mieux comprendre l'ensemble des gestes techniques que l'on est amené à faire en selle, mais aussi arriver à ressentir ce que son cheval ressent, se mettre un peu dans sa peau finalement et se convaincre que la quasi-totalité des défenses de l'animal sont une réponse spontanée et sincère à nos propres maladresses, en fait. Hein,
ça, c'est l'équitation intellectuelle.
Ça, c'est l'équitation intellectuelle. Alors, la lecture des traités d'équitation est pam dans ton nez, Michel. Également, sont de formidables révélateurs de la façon dont nos prédécesseurs du 15e, 16e et pratiquement jusqu'au début du 17e siècle considéraient le cheval. Certains de ces traités nous font froid dans le dos. Il n'est question que de combat pour mater un animal réputé peu intelligent, souvent de mauvaise volonté et généralement caractériel.
Je t'arrête, sauf Xénophon, parce que Xénophon commençait à dire qu'il fallait que le cheval se plaise dans son air et que c'était une équitation beaucoup plus douce finalement que l'équitation de la guérinière.
Non, la guérinière c'était pas mal, mais par contre c'était ses prédécesseurs, hein, Salomon de Labroue, Pluvinel, tout ça, Fieschi l'Italien, enfin bon, ça
les morts, les morts, les morts de l'époque et les éperons de l'époque n'étaient pas tendres, hein, c'était
voilà. Plutôt, et c'est vrai que bon, l'équitation était un affrontement à armes inégales, hein, on reste pantois, scandalisé quand on voit dans les musées l'arsenal de morts aux branches de 30 cm de long, parfois équipés de pointes de métal placées là pour lacérer les commissures des lèvres de l'animal, hein, d'éperons aux molettes acérées, aiguisées régulièrement, comme cela se faisait il n'y a pas si longtemps encore en Espagne.
Des cabossons à pointe aussi, également, qui s'avancent.
Des cabossons à pointe, un arsenal évidemment cruel, qu'un cavalier tauromachie justifiait encore, et je crois que tu le connais Jean-Yves, qu'il justifiait encore ce cavalier tauromachie il y a quelques décennies, il disait « Quand je rentre dans l'arène, je veux que mes chevaux aient plus peur de moi que du taureau. »
Ouais,
voilà. Alors, on ne va pas citer son nom,
non,
c'est
son
un
nom.
Homme adorable, mais enfin, bon, c'est quand même ce qu'il disait. Ouais. Et pourtant, environ deux siècles auparavant, nous sommes dans la première moitié du XVIIIe siècle, l'écuyer français François Robichon de la Guérinière, donc tu viens d'en parler, s'attache à réformer en profondeur les principes équestres toujours en vigueur à son époque. On lui amène, pour les remettre en confiance, des chevaux écœurés, rétifs, voire carrément dangereux. Et sa méthode, une véritable pédagogie qu'il met en œuvre, qui consiste à recommencer l'éducation de ses élèves à crinière depuis le tout début, pas à pas, sans violence aucune, et n'aborder la leçon suivante que lorsque la précédente a été parfaitement comprise et surtout parfaitement acceptée. Les résultats sont spectaculaires et la noblesse se presse dans le manège des Tuileries où enseigne la guérinière. Mais le grand écuyer est réaliste. Et comme il y fera allusion dans ses écrits, il considère que ce sont les cavaliers qu'il faudrait éduquer plutôt que leurs chevaux. Et ça, il le dit plusieurs fois.
Et il a bien raison.
Et on en est toujours là.
Et on en est toujours là. Et pour lui, il est indispensable que le cheval comprenne ce qu'on lui demande de faire. C'est cette compréhension qui fait de lui non plus un animal soumis et craintif, mais un véritable partenaire.
Ce que le cheval est intelligent.
Jean-Claude, Gillian, tous vous faites avec les chevaux, ce sont des partenaires. Ce sont pas
on fait
des...
appel à l'intelligence du cheval. Quand on se dépose comme un terme, on dit le cheval est bête, il ne comprend rien. Il faut lui répéter souvent. Et puis, c'est par la répétition et c'est par le souvenir qu'il réagit. Et ce n'est pas vrai. Le cheval est intelligent. Il réagit quand on en prend son langage. Et quand on se fait cesser de se faire comprendre, il comprend très bien.
Tout à fait. Alors, Guérinière a tracé une voie vraiment tout à fait originale, maintenant qui nous paraît naturelle, mais qui à l'époque était vraiment originale, et d'autres la reprendront et l'approfondiront. C'est ce que le messager du cheval vous propose de découvrir dans la seconde partie de cette émission, mais on va s'accorder, si vous le voulez bien, une pause musicale avec Simon & Garfunkel, Wake Up Little Susie.
Yeah.
1778, sous le règne de Louis XVI, un traité d'équitation est édité, rédigé par un des plus fameux écuyers de l'époque, M. de Montfaucon de Rogle. Un traité qu'il avait écrit plusieurs années plus tôt, approximativement vers 1750. Donc un petit peu après la Guérinière qui lui a vécu entre la fin du 16e et le début du 17e siècle. Et donc ce traité était dédié au fils de Louis XV, le dauphin Louis, qui ne régnera du reste jamais, mais dont trois de ses fils, eux, régneront. Donc Louis XVI, que l'on connaît bien, qui a mal fini, Louis XVIII et Charles X. En 1738, Montfaucon de Rogle entre comme page au service de Louis XV. Ses qualités d'écuyer attirent l'attention du roi qui le choisit et le charge en 1550 de l'éducation équestre de son fils aîné, le dauphin. Son ascension est alors rapide. 7 ans après sa nomination auprès du dauphin, il est nommé cornette de cavalerie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cornette de cavalerie? C'est le nom qu'on donnait aux officiers de cavalerie chargés de transmettre sur le champ de bataille, donc de transmettre aux troupes les ordres du commandement général au moyen de fanion. Voilà. Donc une cornette, c'est à la fois l'officier qui tient le fanion, et le fanion s'appelle une cornette. Voilà. Et 2 ans plus tard, Montfaucon de Rogle entre dans la compagnie des chevaux légers de la garde ordinaire du roi et devient le directeur du manège de l'école de cavalerie qui dépendait de cette compagnie donc de chevaux légers. Alors cette période en France et en Europe est également celle d'une intense émulation philosophique, scientifique, artistique. Entre 1747 et 1766, alors on connaît tout ça, Diderot, Denis Diderot, D'Alembert, entouré de toutes les sommités réputées de l'Europe, tous les intellos, si je puis dire, comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc., etc., rédige un véritable monument de la pensée, l'encyclopédie, la fameuse encyclopédie, encore appelée le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Une période où le rationalisme triomphe des vieux dogmes et des anciennes croyances qui restaient encore très présentes dans la façon dont l'ensemble des gens se représentaient le monde et tâchaient d'en expliquer les mystères. Et l'équitation ne fera pas exception et sera, elle aussi, emportée dans ce vaste mouvement intellectuel qui, on peut dire, a fondé sur notre continent ce qu'on appelle la modernité. Donc, empirique depuis ses origines, l'équitation voudra se reconstruire sur des bases dictées, cette fois par la raison. Donc, une équitation rationnelle et non plus empirique. Jean-Yves, comme tu ne l'aimes raisonner. Pas beaucoup, raisonner, exactement. Alors, le traité de Montfaucon de Rogle se divise en 2 parties. La première partie décrit la position que le cavalier doit avoir en selle et les différents moyens qu'il a à sa disposition pour mener un cheval dont l'éducation est déjà confiée confirmé. En d'autres termes, on pourrait résumer en disant un cheval qui a compris les différents aides du cavalier et qui, surtout qui sait y obéir. Il pige et il obéit. La seconde partie, elle, passe en revue les différentes techniques pour donner au cheval cette connaissance des aides, ce qu'on appellerait aujourd'hui son éducation. On parle plus de dressage, bien heureusement, mais d'éducation. Et cette seconde partie comprend également tout ce qu'un homme de cheval doit connaître, l'équipement du cheval, les différents types de mors et d'éperons et leurs effets respectifs, l'entretien des chevaux et la façon de les nourrir, les différentes fourrures utilisées selon les particularités physiques et dynamiques de chaque animal, et les exigences du service qui lui est demandé, c'est-à-dire on ne fait pas un cheval pour aller faire le tour de son jardin.
Une Bible.
Et pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, comme toi avec tes juments, Jean-Yves. Alors il est à noter, alors ça c'est intéressant, ça va t'intéresser certainement Jean-Claude, que l'auteur fait de façon, et Karine aussi, puisque vous en aviez parlé dans les émissions précédentes, donc l'auteur fait de façon explicite la différence entre l'homme de cheval et le cavalier, qu'il considère donc ce dernier comme un simple utilisateur de cheval, sans plus. C'est un bipède qui grimpe sur un quadrupède, point barre. Voilà. Alors un chapitre est également consacré au haras avec le souci de convaincre le lecteur de bien comprendre l'importance d'améliorer les qualités des chevaux. En résumé, Montfaucon de Rogue se propose de réaffirmer avec force, et là je le cite, donc il dit « L'utilité des chevaux est trop généralement reconnue pour que j'entreprenne de faire ici leur éloge. L'usage continuel que l'on en fait prouve assez le besoin que nous en avons. Cependant, loin de profiter de tous les avantages qu'on peut en retirer, on se prive en abusant de leur qualité d'une partie des services qu'ils pourraient rendre. Pourquoi ne pas chercher au contraire à augmenter ces qualités? Si la nature les donne, l'art peut, en les développant, les perfectionner. Mais pour cela, et il souligne bien, mais pour cela, il faudrait une méthode sûre et des préceptes clairs. » Donc,
très bien.
Il avait drôlement réfléchi. Vrai,
pour être efficace, il faut être compris.
Pour être efficace, il faut être compris,
et
absolument.
Et pour être compris, il faut être efficace.
Voilà, exactement.
Il faut être ouvert. Et ce n'est pas en étant coincé, en étant en colère ou avec de l'adrénaline d'opposition qu'on peut arriver à faire ça. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est une ouverture, c'est un dégagement, c'est une... Tiens-toi droit et souris, à cheval comme dans la vie, et ça c'est important.
Oui, mais c'est extraordinaire, comme ce Montfaucon de Rogue a finalement toute une série...
Eh bien oui, je ne connais pas, j'ai appris quelque chose aujourd'hui à cette émission. Ben, tu vois, extraordinaire.
Ah mais dans le messager du cheval, on apprend toujours quelque chose, voilà. Même à se faire allumer par certains invités. Alors ta leçon, Jean-Yves, votre leçon finalement, hein, allez, voilà, tout le monde peut y aller.
Ben, bien sûr.
Alors, je pose une petite question. Quelles sont les causes qui font qu'un cheval se défend en reculant? Et déjà, est-ce qu'on peut préciser comment on demande à un cheval en reculé? Alors, qui veut se lancer?
Alors, moi, je veux bien expliquer.
Allez,
comment
vas-y,
on
Jean-Yves.
Fait pour demander un cheval de reculer. Voilà. D'abord, il faut que le cheval soit en avant, qu'il soit tendu, qu'il soit dans la main, qu'il accepte les mouvements, qu'il accepte les trois attitudes, et après, on peut arrêter son cheval, il monte ses épaules, il abaisse les hanches, et il s'engage dans les postérieurs. Mais le reculer est un mouvement en avant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette tension. S'il n'y a pas cette tension, s'il n'y a pas cet arrêt immobilité, la tension dans l'arrêt immobilité, le cheval ne peut pas reculer. Le cheval est comme une boule. Il doit pouvoir aller en avant, il doit pouvoir aller en arrière.
Alors ça, c'est bien que tu le précises, Jean-Yves, parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens, ça paraît invraisemblable, mais effectivement, le cheval qui recule convenablement, c'est un mouvement en avant.
Voilà, c'est un mouvement en avant vers l'arrière.
Vers l'arrière, voilà.
Mais c'est une tension, c'est une préparation, c'est toute la musculature se tend et il vient dans la main, il se pose sur la main, cette main le reçoit et lui indique, en montant les épaules, surtout pas en tirant, parce que quand on tire, le cheval ferme sa mâchoire, il lève la tête en l'air, donc il se met en défense.
Ou sans capuchonne.
Voilà.
En dedans
de la main.
Donc, voilà, il évite.
Au contact de la main, qui reste loin, au devant du contact de la main. Alors Jean-Claude, maintenant, toi, tu peux donner le...
La première question, pourquoi un cheval fuit vers l'arrière, c'est ça?
Oui, il faut qu'un cheval se défend en reculant. Voilà, c'est-à-dire essayer de pointer, piétiner, etc.
Déjà, il est inquiet.
Déjà, il est en fuite.
Voilà. S'il peut pas partir à gauche, s'il peut pas partir à droite, s'il peut pas se lever, s'il peut pas se coucher, il va partir en arrière. De toute façon, le cheval, à partir du moment où il est pas bien là où il est, il va aller là où il sera bien. Donc, il va faire un choix. Et souvent, le choix peut être un choix sur le reculé, c'est-à-dire que tu peux avoir certains cavaliers qui vont travailler avec leurs chevaux et que le cheval, par réflexe, va apprendre un reculé, c'est-à-dire qu'il va apprendre quelque chose qu'il ne devrait jamais avoir appris, puisqu'il va reculer par défense et non pas, comme vient de dire Jean-Yves, de reculer convenablement avec l'acceptation, avec un dos tendu, avec une locomotion tout à fait normale, c'est-à-dire bien diagonalisée.
Bien diagonalisée.
On doit pouvoir compter ses pas de reculer comme on doit pouvoir compter ses pas en avançant.
Voilà, c'est exactement la même locomotion. Sauf que quand ça part dans la fuite, c'est plus du tout la même locomotion, il n'y a même plus de locomotion du tout.
On est dans une défense.
C'est une défense totale. Naturelle. Quand il va faire orage et qu'il va faire de la grêle, le cheval tourne son croupe vers l'orage pour se parer. Et quand il veut se bagarrer avec un autre cheval, il tourne ses fesses et il envoie la ruade. Donc c'est une défense naturelle.
Exactement.
C'est une défense
comme le poulain hier, quand tu as voulu le faire venir le dresser dans le boxe, la première défense, il s'est retourné, il a montré ses fesses.
Voilà. C'est-à-dire quand tu reçois un poulain et qu'il est au boxe, quand il est pas du tout éduqué et que tu vas dans son boxe, la première chose qu'il fait, c'est il te montre les fesses.
C'est une parade.
C'est une parade.
Voilà. C'est une parade, voilà,
c'est l'endroit charnu qui peut le mieux résister au coup et il s'en sert.
Et puis c'est son arme,
c'est son arme et sa défense.
Des poulains, il sait que s'il envoie six rues, s'il envoie les postérieurs, Il peut casser la tête à quelqu'un. Hein,
il peut casser la tête, faire
très très mal. Hein.
Et alors, ce qui est très rigolo, c'est comment fait un poulain qui se retrouve à l'arrière d'un autre poulain pour pas se prendre un coup de pied, alors que l'autrui.
Il se colle contre le cul.
Il se colle contre le cul.
Bien sûr.
Et donc, la meilleure protection quand on demande à apprendre un cheval, par exemple, à donner les pieds, des choses comme ça, c'est de se coller au pied, se coller à la jambe et non pas de s'en écarter.
Alors qu'on a souvent le réflexe inverse, on se met à distance.
On fait le poulet, c'est la première des choses qu'il faut faire. Quand le poulet sort du ventre de la mère, c'est imprégné, et c'est l'imprégner, et
bien
c'est
sûr.
L'imprégner.
Voilà. Et ça, à condition que c'est bien fait, parce que après, il y a les conséquences.
Alors nous-mêmes, on l'apprenait aussi pour les bipèdes, si je puis dire. On nous disait toujours, si tu passes derrière un cheval que tu connais pas trop, soit tu passes au ras des fesses,
tu es averti,
soit tu passes carrément au large, mais tu passes pas à...
Voilà. Alors que 9 cavaliers sur 10 passent à la très bonne distance pour se faire allumer.
Alors c'est avec plaisir que le messager qu'est-ce qu'on aimerait continuer cette émission encore, vous donne rendez-vous mercredi samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins d'une histoire fabuleuse qui est l'histoire de l'alliance incroyable nouée entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés. Qui continue à s'y passionner encore?
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouer 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles.
À la semaine prochaine.
Un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hey, hey, partis les chevaliers, allant des fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinal. Hey, hey. Un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey. Et ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, sur un point tu ne croyais plus, genoux sur les sentiers pour la retrouver. We'll be right back.
langue d'Okoroego. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac. La couvertura de Mio, de Lévesou, sa vieille au milieu du sel. Patrie de Béranger, de Landore, capitale du roi de Rhodes. Entrez dans la légende de la roue.